matin.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec, à nos côtés, ce soir, une femme qui n'est pas du genre à s'en laisser compter. Une femme que l'on a découverte il y a 3 ans, après les attentats du 13 novembre 2015, alors que le pays était plongé dans la colère et le désarroi. Daniel Mérian nous avait conseillé, au détour d'un micro-trottoir télévisé, de relire Hemingway, « Paris est une fête ». Depuis, cette ancienne avocate a publié chez Grasset un livre intitulé « Nous n'avons pas fini de nous aimer », un livre dans lequel elle raconte son histoire et son combat pour les droits humains. Un droit des prisonniers, des opposants persécutés, des réfugiés abandonnés, des femmes excisées et j'en passe. On parlera bien sûr avec elle du prix Nobel de la paix décerné aujourd'hui à deux figures de la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des femmes dans les pays en guerre. On parlera aussi de l'état de la France à l'heure où certains tentent de nous convaincre que ce qui nous divise est plus important que ce qui nous rapproche. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, un reportage à Marseille où l'Aquarius appelle à la mobilisation demain pour tenter d'obtenir un pavillon. Et les bonnes ondes de Sandrine Houdin, ce soir à la veille de la journée des aidants, on s'intéressera à l'Échappée Rose, un institut de beauté itinérant qui stationne sur les parkings des hôpitaux pour les malades, mais aussi pour leurs proches. À 19h20, au téléphone sonne, un an tout juste après le lancement de MeToo aux États-Unis, quelles conséquences concrètes ici en France ? La libération de la parole des femmes a-t-elle changé les choses dans notre quotidien ? On en parlera avec Anne-Cécile Maillefer de la Fondation des Femmes, qui publie une enquête sur le sujet, et avec Marine Baldeck de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Vous pouvez déjà nous appeler pour témoigner au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Daniel Mérian.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. On est très heureux de vous recevoir ce soir. Faut dire une chose, c'est que votre cas est assez unique. Vous êtes brusquement sorti de l'anonymat il y a presque 3 ans de ça. Je le rappelais, la France était tétanisée par ce qui venait de se passer, les attentats du Stade de France, le Bataclan, les terrasses. Et puis on vous a entendu au détour d'un micro-trottoir sur BFM. Alors vous étiez venu déposer une fleur pour les victimes. Les quelques phrases que vous avez prononcées et qu'on entendra dans quelques instants ont provoqué une sorte d'électrochoc. Est-ce que vous avez été surprise par toutes ces réactions ?
J'ai été surprise de voir, moi qui parlais de fraternité, de voir quel mouvement de fraternité ces 28 secondes de micro-trottoir ont provoqué, puisque j'ai eu cette chance que ce jeune musulman de Toulouse qui m'a cherché, qui m'a trouvé...
a provoqué tout un élan de solidarité en votre faveur.
Ça a été fantastique. Nous avons été étonnés, lui et moi, de voir quand il a proposé des fleurs pour Daniel pour se faire rembourser le beau bouquet qu'il m'avait adressé. Nous avons été très surpris que 1800 personnes, en un mois de temps, m'adressent 17 600 euros de fleurs que j'ai pu partager à mes associations.
Alors on va entendre Daniel Mérian, effectivement ces 28 secondes qui ont provoqué cet électrochoc, parce que c'est quand même quelque chose d'assez unique. On vous entend.
C'est très important d'apporter des fleurs à nos morts. C'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Hemingway, Paris est une fête, parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent, soi-disant, au nom d'Allah.
Voilà, Daniel Mérian, c'était donc vous au lendemain de cette soirée terrible du 13 novembre. Vous écrivez, vous avez raconté votre histoire dans un livre qui s'appelle « Nous n'avons pas fini de nous aimer » chez Grasset, coécrit avec Tanienne Montaigne. Vous écrivez à propos de cet instant où vous vous êtes exprimé devant les caméras de BFM, vous écrivez « Avec ma tête de vieille dame, comme il faut, Bourges, Cato, le journaliste qui m'a tendu son micro a certainement pensé qu'il allait en avoir pour son argent. Pourquoi avez-vous pensé qu'il attendait autre chose de vous que ce que vous lui avez dit ?»
Parce que je suis une vieille dame très âgée et que sans doute il ne pensait pas que j'allais avoir cet appel à la fraternité. Il devait penser que sans doute j'aimais pas les migrants ou les
musulmans dans ces instants-là. Voilà. Alors quelques heures après, vous racontez, il y a une femme qui s'est assise devant vous dans le bus pour vous dire merci. Et puis il y a eu donc tout cet élan de solidarité. Votre petit-fils qui vit au Canada vous a appelé. Vous avez fait le tour du monde avec ces quelques phrases.
Oui, ce sont les enfants de mes amis qui téléphonaient à leurs parents. Il faut écouter Daniel.
Et comment imaginer effectivement qu'il ait pu y avoir un tel élan de solidarité? Vous dites, j'ai fait ce que je fais depuis 40 ans, créer des ponts.
Oui.
C'est-à-dire, Daniel Merian?
Bien, je pense qu'il faut bouger. Je pense qu'il ne suffit pas de se contenter de voir sur tous les murs de nos villes le mot fraternité qui est écrit partout, qu'il faut s'y mettre. Je pense, voyez-vous, à New York, il y a un immense poster sur un mur d'Einstein. Et dans la bulle, il dit « Love is the answer ». Et je crois avec lui que la seule façon d'avancer, c'est la fraternité, c'est de s'aimer les uns les autres et de ne pas avoir peur de nos différences qui nous enrichissent.
C'est un débat qui est toujours actuel, ça, Daniel Merian. La semaine dernière, le magazine L'Express titrait « La fin du vivre ensemble en France ». Vous pensez qu'on assiste à un repli communautaire en ce moment dans notre pays ?
Non, il n'y a pas une fin du vivre ensemble. Il y a plein de gens formidables, malheureusement. Les journalistes dont vous êtes, parfois, ne donnent pas assez la parole à tous ces mouvements de fraternité. Je pense à toutes les associations dont je m'occupe. Elles n'ont pas une visibilité dans les médias qu'elles devraient avoir.
Et donc vous dites que tout cet argent qui a été collecté suite à cet appel, vous l'avez donné à ces associations dont vous vous occupez. On a découvert à cette occasion, Daniel Merian, que vous étiez donc une avocate à la retraite, oui. Militante de longue date pour les droits humains.
Oui.
Pour des tas de causes.
Oui, toute ma vie.
On va évidemment reparler de toutes ces causes, Daniel Merian. On a trois quarts d'heure jusqu'à 19h ensemble. Mais on va passer comme chaque semaine à l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Marie-Annick Rimbaud. Au programme cette semaine, le voyage d'Emmanuel Macron aux Antilles, la démission du ministre de l'Intérieur et bien sûr la disparition de Charles Aznavour.
Ils sont tombés. Sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants.
C'est une chanson qui a marqué énormément la communauté arménienne.
À l'époque, on ne connaissait pas les Arméniens. Et la seule référence qu'on avait, c'est « Je suis d'origine arménienne, comme Charles Aznavour ».
Charles Aznavour qui s'en est allé. Il avait 94 ans, 70 ans de carrière derrière lui. Il nous laisse plus d'un millier de chansons.
Désormais, on ne nous verra plus ensemble.
On ne verra plus ensemble Emmanuel Macron et Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur a décidé de repartir chez lui, à Lyon, contre l'avis du président qui a bien tenté de le retenir, mais sans succès.
À un moment donné, j'ai dit « il faut démissionner ». Je suis allé voir le président qui ne souhaitait pas que je démissionne.
Quelqu'un qui démissionne, on ne peut pas l'attacher à sa chaise.
Gérard Collomb estime qu'il vaut mieux être en dehors du radeau de la Méduse avant qu'il ne coule.
Pour une fois que le député insoumis Éric Coquerel et Marine Le Pen sont sur la même longueur d'onde, pourtant Emmanuel Macron l'affirme, ce n'est pas une crise politique.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Pas sûr que la misère soit moins pénible au soleil. Emmanuel Macron s'en est rendu compte lors de son voyage aux Antilles un an après le passage de l'ouragan Irma. Mais sa rencontre avec un ex-jeune braqueur a fait jaser.
Des jeunes comme toi, là, t'es costaud comme tout. Il ne faut pas rester comme ça et pas refaire des bêtises. Hein. Les braquages, c'est fini. Ta mère, elle mérite mieux que ça.
Emmanuel Macron a ensuite posé pour les photographes une photo qui ne passe pas pour le secrétaire général délégué LR Geoffroy Didier.
S'entourer d'un braqueur, d'une part, de quelqu'un qui fait un doigt d'honneur, d'autre part. Quel exemple !
Mais Emmanuel Macron assume.
Il faut arrêter de penser que dans notre jeunesse, parce qu'elle est d'une certaine couleur ou parce qu'elle a un moment fait des bêtises, il n'y a rien à tirer. C'est l'inverse.
Quant à Martine Aubry, rien n'y fait. Pour elle, cela fait longtemps que le président a dépassé les bornes.
Moi, depuis qu'il a dit des gens qui ne sont rien, pour moi, la cassure est totale. Leur dire, vous êtes des fainéants, vous êtes des cyniques, traversez la rue, va t'acheter un costard. Mais comment on peut parler comme ça quand on est président de la République ?
Je suis fait comme ça. J'aime les gens et je vais au contact des gens. Et je m'emporte parfois avec les gens parce que je suis naturel. Donc je ne vais pas à chaque fois dire, je suis désolé, j'aurais pas dû. Non, je suis fait comme ça.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait.
Lui se voit déjà maire de Barcelone. Manuel Valls a quitté Paris lui aussi cette semaine avec le sentiment du devoir accompli.
Je pense avoir fait évoluer la gauche sur les questions de sécurité, sur la laïcité. Et puis, parfois, il m'est arrivé de confondre autorité et autoritarisme. Alors,
on termine avec le héros de la semaine, le français Gérard Mourou, prix Nobel de physique pour ses travaux sur les lasers et l'optique.
C'est fabuleux. Mais encore une fois, on ne le fait pas pour le prix Nobel, ça. Ce qui est important, c'est de faire avancer la science.
J'en connais qui prétendent à l'année sabbatique. Seul et loin de la foule, au pôle ou au Tibet. Aux mains sur le front, des confessions publiques. Jouant les mâles dans leur peau, allergiques au succès. Ils veulent oublier les chasseurs d'autographes. Échapper aux médias, sauver leur vie privée. Mais suivi comme une ombre par un photographe, dans leur quête du moi et leur identité. Très tôt ils parlent de retraite, on les prendrait presque au sérieux. Mais quant à moi, la chose est nette, croyez-moi. Je ne ferai pas mes adieux.
Daniel Merian, c'était un petit résumé de l'actualité de la semaine, l'actualité en France, hein, l'actualité nationale. Qu'est-ce que vous en retenez, Charles Aznavour, bien sûr?
Bien sûr, Charles Aznavour. C'était un immense chanteur et ce qu'il y avait de formidable avec lui, c'est un homme qui bougeait. Au début, Aznavour, il était parfaitement indifférent à l'Arménie. Et puis il y a eu le terrible tremblement de terre, il est devenu citoyen arménien, il est devenu habitant en Suisse, ambassadeur de l'Arménie. Voilà, c'est ça qui me plaît chez cet homme, c'est qu'il bouge, il n'est pas statique.
Homme
et
d'action.
C'est ça que j'attends de tous ceux que j'aime, c'est qu'il bouge.
La politique, sinon Daniel Merian, Emmanuel Macron, comment jugez-vous son action?
J'ai pas envie de parler du président de la République. Je préférerais, dans l'actualité, parler d'un héros, le docteur Denis Mukwege.
Alors, on va en parler de Denis Mukwege, d'autant plus qu'on va l'entendre. Alors, je ne sais pas si on peut l'entendre tout de suite. Denis Mukwege, qui a été un des deux lauréats du prix Nobel de la paix, qui a été décerné aujourd'hui. Il lui a été décerné à lui, ainsi qu'à la jeune yézidi Nadia Mourad, on l'entendait tout à l'heure, qui, elle, a été prisonnière du groupe État islamique. Le docteur Mukwege, lui, soigne les femmes et les enfants victimes de viols dans l'est de la République démocratique du Congo. Je propose d'écouter ce qu'il nous disait en novembre 2013 dans le journal de 13h ici sur France Inter. Il nous expliquait qu'il recevait dans son hôpital de Panzi près de Bukavu des victimes de tous âges.
Les âges varient entre 18 mois et 80 ans. Ce sont des viols qui se commettent comme une arme de guerre. C'est un terrorisme en fait sexuel. Plusieurs centaines de milliers de femmes ont été violées. Je voudrais que derrière les chiffres, qu'on puisse voir des personnes, des femmes qui sont stigmatisées, des femmes qui sont rejetées par leur famille, par leur communauté, des femmes qui se retrouvent incontinentes. En fait, ce ne sont pas seulement des viols, ce sont des viols qui se font suivre de tortures, de mutilations, de destructions de la femme. Et je pense que c'est ça qui fait de ces actes, en fait, une véritable terreur.
Et c'est ça dont vous témoignez? Parce que vous tenez à ce qu'on sache jusqu'où ça va, cette horreur-là?
Absolument. J'ai commencé à soigner ces femmes il y a 15 ans. Quand ça s'est passé pour la première fois, j'avais l'impression que c'était une barbarie de la guerre et que peut-être elle était passagère. Mais quand je me suis rendu compte que je soignais maintenant les enfants issus du viol, j'avais compris que ça n'avait pas de fin et qu'il fallait dénoncer, il fallait dire au monde ce qui était en train de se passer. Il fallait absolument se battre et pas tout simplement soigner les conséquences, mais il fallait soigner les causes de cette erreur. En fait, c'est la guerre, donc il faut la paix pour que cette erreur arrête.
Voilà, le docteur Denis Mukwege qui a dédié son prix Nobel de la paix à toutes les femmes meurtries par les conflits, confrontées à la violence de tous les jours. Daniel Merian, vous aviez eu l'occasion de le rencontrer, Denis Mukwege.
Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, dont je suis militante depuis 1975, a promu son film « L'homme qui répare les femmes ». Il peut parler 1h30 sans notes. Il est un avocat exceptionnel. En fait, c'est un pasteur. Et je pense que les fidèles de sa paroisse doivent bien le regretter, puisque malheureusement, il ne peut plus sortir de son hôpital de Panzi. Il n'est même plus protégé par les soldats de l'ONU.
Et il a été menacé plusieurs fois. Il y a eu des attaques.
Les tentatives d'assassinat sont nombreuses. Donc, je prie le ciel qu'on le garde longtemps, d'autant que rien ne l'arrête. Je viens d'apprendre qu'il allait au Burkina Faso, qui est le seul pays d'Afrique de l'Ouest à travailler vraiment à l'abolition de l'excision, qui est un crime abominable. Il va créer une clinique pour réparer les clitoris. Donc on peut dire que rien ne l'arrête, parce que Dieu sait qu'il a dit aussi combien il était fatigué de réparer ses femmes, surtout quand il répare la même femme plusieurs fois. Dans quel état elles sont. Et non seulement il les répare physiquement, mais il leur rend leur dignité. Parce qu'elles sont rejetées par leur famille, et c'est quand même le comble. C'est un homme absolument exceptionnel, et je me réjouis grandement aujourd'hui qu'il soit prix Nobel de la paix.
Votre engagement, Daniel Merian, pour les droits humains, d'où vient-il? Ça remonte à loin. Bon, vous avez dit que vous aviez milité depuis très longtemps. Vous avez fait partie des fondateurs de l'ACAT, l'Action des chrétiens, oui, pour l'abolition de la torture. Mais les racines de cet engagement, parce que vous racontez dans votre livre, enfant, vous avez connu la guerre.
Hein, oui.
Et c'est sans doute peut-être de là que c'est parti.
Absolument. Ce qu'a fait de moi déjà quelqu'un qui a envie de se battre, c'est que j'étais née en 1938 dans une famille normale. Une famille normale, à l'époque, préférait les garçons aux filles. Donc j'étais absolument furax. Je me disais, c'est pas possible, je suis dans un monde de fous, il faudrait créer une école des parents, ce qui s'est fait depuis. J'avais donc cette tendance à réfléchir, à penser par moi-même. Merci papa, merci maman. Et ce qui a, je crois, déterminé tous mes engagements, c'est qu'à l'âge de 7 ans, on n'est pas bien vieux à 7 ans, mon père, correspondant de guerre, a terminé la guerre en suivant l'armée canadienne. Il a ouvert des camps de concentration, il a rapporté les photos qui ont fait le tour du monde. Et comme il n'était pas du tout un éducateur, mon papa, il a dit à ma mère devant nous, il ne faut pas que les enfants voient ça. Donc dès qu'il a eu le dos tourné, je me suis précipité à fouiller son bureau. Et là, j'ai vu l'impensable. J'ai vu ce que l'homme peut faire à l'homme. Et j'ai décidé que j'allais faire le contraire, que j'allais aimer mes frères les hommes et que je défendrais, comme je pourrais, les plus faibles d'entre eux, ce qui fait qu'il n'est pas très étonnant que je sois devenu avocat.
Il y a eu donc cette époque de la Deuxième Guerre mondiale, une époque où, vous le racontez, ça aussi dans votre livre, vous avez vu une femme, un jour tendue dans les
Absolument.
Rues de Paris, qui ça vous a marqué aussi
oui,
beaucoup.
Oui, parce que là j'avais 6 ans, c'était en 1944, à la libération de Paris. Et c'était des soi-disant, soi-disant résistants qui faisaient ce genre de boulot ignoble.
Il y a eu aussi la guerre d'Algérie. Ça aussi, ça a été
un
élément très important.
Beaucoup marqué.
Parce que votre mari a passé presque 3 ans là-bas.
Qui était mon fiancé. D'ailleurs, la guerre d'Algérie, pour moi, elle a commencé quand j'étais au collège Sévigny. Enfin, elle a commencé, comme tout le monde le sait, en 1954. Ce que je veux dire, c'est que j'avais dans ma classe la fille du colonel Lacheroy. Et notre camarade nous racontait qu'on venait continuellement arrêter son petit frère. On arrêtait le fils à la place du père qui était en fuite en Espagne. Et j'ai donc découvert, j'étais fort jeune à l'époque, ce que c'est que l'internement administratif dans le dos de la justice. Donc ça a commencé comme ça pour moi, ma révolte contre ce qui n'était pas l'état de droit. Et puis je me suis fiancée à un anti-militariste.
Rencontré à la fac de droit.
Oui, on était juristes tous les deux. Lui, il avait fini, moi je commençais. Et l'armée ne l'a pas loupé. Le premier jour de son incorporation comme piou-piou, puisque pour rien au monde, il n'aurait fait les EOR, il a demandé poliment à l'adjudant d'être poli avec la troupe. Donc il s'est retrouvé immédiatement sans ceinture et sans lacet en prison à la corvée de chiottes. Et 2 mois plus tard, puisqu'il fallait quand même 2 mois pour les vaccins et la formation, il a été envoyé en Algérie et pas n'importe où, au deuxième bureau. Mon mari, qui était mon fiancé, de 1958 à 1961, a passé ses nuits à aller arrêter dans les mechtas la population masculine. Il m'a dit « Je n'oublierai jamais le regard des femmes ». Il les interrogeait normalement. Évidemment, on n'en tirait rien de ces paysans pris entre deux armées. Et au petit matin, il les faisait monter sur un camion, direction le prochain DOP, dispositif opérationnel de protection, en français, centre de torture. Il a vécu ça de 58 à 61. Il n'est pas devenu fou, je pense que je l'y ai aidé, parce que je lui ai écrit tous les jours, il y a un autre monde, un jour nous serons heureux.
Et ensuite, donc, vous avez fait partie des fondateurs de la CAT, avec ça deux est... femmes, oui. qui ont monté cette organisation, qui est toujours très active, et vous vous êtes mobilisé pour des tas de gens, pour les prisonniers du Vietnam, d'Argentine et d'autres dictatures. Et vous vous mobilisez toujours jusqu'à aujourd'hui, Daniel Merian. Je voudrais qu'on aille à présent à Marseille. On va revenir sur toutes les causes pour lesquelles vous battez, hein, et notamment pour les femmes excisées, mais on va aller à Marseille, où l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée, est bloqué à quai depuis hier, faute de pavillon. Le Panama le lui a retiré sous la pression de l'Italie. L'Aquarius, faut le rappeler, a sauvé 15 000 vies en Méditerranée ces 4 dernières années. SOS Méditerranée lance aujourd'hui un appel pour poursuivre ses activités. SOS Méditerranée qui, soit dit en passant, a été victime d'une attaque des identitaires cet après-midi à Marseille. On l'a entendu dans le journal tout à l'heure. SOS Méditerranée appelle donc à une journée de mobilisation demain dans plusieurs villes de France et d'Europe. Il demande aux gens de venir habiller en orange la couleur du bateau. Olivier Martoc.
Privé de pavillon, le temps joue contre les responsables de l'Aquarius qui ne peuvent plus désormais miser que sur la pression populaire pour pouvoir quitter Marseille et retourner en mer. Frédéric Penard est le directeur des opérations.
Pour parler régulièrement avec les équipages à bord, ils sont particulièrement sensibles à cette mobilisation, évidemment, parce que c'est le devenir de l'Aquarius et c'est la suite de leur mission de sauvetage en mer qui est en jeu aujourd'hui. Et donc cet appel à mobilisation est en premier lieu lancé par l'ensemble de l'équipage de l'Aquarius. Et donc nous répétons et nous reposons nos demandes qui ont été faites maintenant il y a plus de 10 jours. La première demande est une demande au Panama de reconsidérer sa décision et de laisser flotter le pavillon panaméen sur l'Aquarius. Et puis plus largement, notre demande est à tous les États d'Europe de nous soutenir, de soutenir pour des questions de valeur, pour des questions de principe. L'Aquarius est victime d'attaques qui sont manifestement politiques et donc c'est des réponses manifestement politiques qu'il faut faire pour aider l'Aquarius à retrouver un pavillon, n'importe quel pavillon. L'idée est d'avoir l'Aquarius qui soit en capacité de retourner en Méditerranée centrale poursuivre sa mission le plus tôt possible. Voilà, merci.
Demain, les citoyens sont donc appelés à manifester dans les rues en France, mais aussi un peu partout en Europe, y compris en Italie. C'est Caroline Gazet qui est en charge de cette opération.
Nous appelons tous les citoyens, qu'ils soient marins, humanitaires, secouristes, artistes, intellectuels, les associations, les entreprises, les mouvements religieux, les syndicats, les collectivités publiques, à nous rejoindre dans ces rassemblements qui seront pacifiques et apolitique. Le seul signe distinctif qui nous unira tous sera la couleur orange qui portera le symbole du sauvetage et de l'Aquarius de partout.
Au-delà de ces manifestations, une pétition pour sauver l'Aquarius est en ligne. Objectif, 1 million de signatures. Et puis une autre initiative, claire, un double album signé par 30 chanteurs et musiciens français au profit de l'Aquarius. Son titre est plutôt évocateur, tous dans le même bateau.
Merci beaucoup Olivier Martoc à Marseille. Donc demain des rassemblements à l'appel de SOS Méditerranée et de MSF dans toute la France. À Paris, Daniel Merian, ce sera Place de la République, pas très loin de chez vous. Hein.
J'appelle tous les gens de cœur à signer la pétition pour l'Aquarius, à être demain Place de la République pour les Parisiens habillés en orange. Et vous me demandiez tout à l'heure ce que je pensais de la politique de Monsieur Macron. Eh bien, je l'invite à donner le pavillon français à l'Aquarius, parce que pour moi, ce serait l'honneur de la France et je tiens beaucoup à l'honneur.
Daniel Merian, l'Europe ne va pas très bien aujourd'hui. On assiste à une montée des extrêmes dans plusieurs pays. Est-ce qu'on a raison de s'en inquiéter? Vous qui avez
tout
connu
à fait raison de s'inquiéter.
Tout ce passé.
Ah oui, vraiment, ça rappelle vraiment avant la guerre, la guerre de 40. C'est absolument affolant de voir que toutes les élections donnent une majorité de droite dans tous les pays. Et vraiment, l'Europe, elle est en train de perdre son âme.
Dans votre livre, vous dites « Le « c'était mieux avant » est un pur mensonge ».
Ah oui.
« Avant, j'en viens et je peux certifier que c'était loin d'être mieux ».
Ah oui. Ah ça, c'est certain. Je suis née en 1938 sous le régime de l'incapacité juridique de la femme mariée. Cette idée désopilante de Napoléon, interdire à la moitié des Français de participer à l'activité de la nation. Alors,
de ce point de vue-là, effectivement, c'était pas mieux avant.
On a fait des progrès puisqu'on s'est battu pendant tout le XXe siècle pour arriver à l'égalité femmes-hommes, obtenue en droit, absolument pas dans la vraie vie puisque les femmes sont payées 30% de moins que les hommes, sauf quand elles sont avocates. Là, c'est 50% de moins dans la maison du droit. Donc, il y a du travail. C'est pourquoi que parfois, je suis un petit peu découragée en me disant on a tellement de mal déjà avec l'égalité. Quand je dis il faudrait s'y mettre pour la fraternité,
il y a du boulot.
Il y a de l'ouvrage.
Il y a du boulot et on va évidemment y revenir tout à l'heure.
Toutes les gares se ressemblent. Tous les ports crèvent d'ennui, toutes les routes se rassemblent pour mener vers l'infini. Dans la cohue de l'existence se trouve toujours un passant qui n'a pas eu de ligne de chance et qui devint un émigrant. Regardez-le comme il promène son cœur au-delà des saisons, il traverse des murs de haine, des gouffres d'incompréhension, à chaque nouvelle frontière, espérant enfin se fixer, il fait une courte prière vers ce ciel qu'il a oublié. Regardez-le, il déambule sans jamais savoir où il va. Il marche comme un somnambule et les gens le montrent du doigt. Le monde entier fuit de la haine, le ciel là-haut n'y comprend rien. Les heureux forment une chaîne en se tenant par la main. Pas moyen d'entrer dans la danse, le calendrier a son clan. Si tu n'as pas de ligne de chance, tu resteras un émigrant. Regardez-le comme il promène son cœur au-delà des saisons. Il traverse des murs de haine, des gouffres d'incompréhension. À chaque nouvelle frontière, espérant enfin se fixer, il fait une courte prière vers ce ciel qu'il a oublié. Regardez-le, il déambule sans jamais savoir où il va. Il marche comme un somnambule et les gens le montrent du doigt. Mais pour écourter sa misère, le ciel un jour le fait tomber, les bras en croix face contre terre, pour embrasser la liberté.
Les migrants, chanson de Charles Aznavour à qui France Inter rend hommage évidemment toute cette journée. Chanson enregistrée en 1955, Daniel.
Oui, il était en avance.
Merian, hein?
Absolument.
On va dire un petit mot quand
il
même.
Il a défendu toutes les belles causes. Hein.
Oui.
Il a défendu les homosexuels, il a toujours été en avance. Les artistes sont toujours en avance.
Daniel Merian, vous avez grandi à Paris, C'est ça. Entre un père qui travaillait à la radio-télévision, une mère directrice d'un laboratoire photo. Votre père, c'était Claude Darget. Oui. C'est ça. Il présentait le journal télé à la radio et à la télévision dans les années 50-60. Il présentait aussi une émission, La vie des animaux. Vous écrivez dans votre livre, la France entière le connaissait et ça me désespérait.
C'est-à-dire que quand j'étais adolescente, je n'avais pas du tout envie de sortir avec mon père parce que, évidemment, tout le monde nous regardait puisque quand il y avait une seule chaîne télé et qu'il présentait le journal télévisé, toute la France le connaissait. Et je n'aimais pas du tout qu'on nous regarde et je me disais, vivons heureuses, vivons cachées.
Mais ça, c'est
ce
fini.
Ce que j'ai réussi, 78 ans, je suis très contente.
Voilà, mais maintenant, c'est fini puisque vous
maintenant, êtes, c'est fini.
Vous êtes devenue célèbre.
Les regards sont différents. Ça n'est plus des regards de curiosité. C'est des regards d'empathie, de sympathie, d'affection. C'est très émouvant pour moi de voir que tant de gens m'aiment.
Daniel Merian, donc il y avait ce papa à la radio-télé, maman qui dirigeait un labo photo et un frère dont vous dites qu'il était quand même globalement avantagé parce que c'était un garçon et ça vous a révolté. Vous dites « je haïssais les jeux de filles, la dinette, la lecture a été une passion ».
Ah tout à fait, j'ai eu la chance de naître dans une famille de lettrés. Donc pour moi, la bibliothèque, c'est la première des choses. Je voudrais avoir du temps pour lire ma bibliothèque.
En tout cas, ça vous a permis de découvrir beaucoup de choses. Vous avez donc décidé ensuite de devenir avocate. D'abord le droit pénal, ça n'a pas duré très longtemps parce que la prison, c'était pas vraiment votre truc, parce qu'il faut aller voir les clients en prison, évidemment. Et vous êtes devenue spécialiste du droit de la famille, c'est ça?
Oui, tout à fait. J'ai très bien gagné ma vie parce que j'ai été spécialisée par ma clientèle dans le divorce. Et comme la moitié de nos contemporains se séparent, c'est un filon. Mais j'ai surtout tenté d'apprendre à tous mes clients que d'abord, il vaut mieux un accord que de se mettre sous le couperet d'un jugement, qu'un magistrat peut se tromper et s'il se trompe sur une prestation compensatoire, une pension alimentaire ou le lieu où les enfants vont vivre, ça peut être tout à fait catastrophique. Donc c'est tellement mieux de s'installer à quatre, les deux avocats et les deux époux, et de chercher une ligne médiane qui pourra satisfaire tout le monde, et à commencer par les enfants, parce que quand on peut dire aux enfants « vos parents se sont mis d'accord sur leur séparation », on leur fait grandement du bien.
Toujours cette défense de l'état de droit chez vous, Daniel Merian. Et donc aujourd'hui, parmi vos combats, la lutte contre l'excision, vous vous occupez de l'association SOS Africaine en danger. Vous écrivez dans votre livre à propos de ces femmes que vous accompagnez aujourd'hui, que vous défendez. Nous rencontrons à l'époque, en 2013, et c'est le coup de foudre entre ces jeunes femmes noires musulmanes et moi, âgée blanche chrétienne.
Tout à fait. C'est mon nouveau combat. C'est mon nouveau combat parce que je n'ai découvert l'excision qu'à 75 ans, donc je n'en suis pas fière. Ça me permet de comprendre combien il est difficile de parler d'excision en France, précisément parce que ça n'est pas connu. Et je suis devenue la présidente de ce petit groupe de femmes réfugiées en France, toutes originaires de nos anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest, donc francophones, musulmanes, toutes excisées enfants, toutes mariées de force enfants, et qui ont eu le courage de dire non à leur famille, non à leur village, non à leur communauté, non à leur gouvernement, parce que la plupart des gouvernements d'Afrique de l'Ouest, pour complaire à l'Europe, ont porté dans les constitutions l'interdiction de la mutilation des femmes, l'interdiction du mariage des mineurs et pratiquent une totale impunité, sauf le Burkina Faso, ce que nous devons à une femme, l'épouse du précédent président. Au Burkina Faso, vraiment, il y a un vrai combat pour arrêter ce crime atroce qu'est l'excision. Et c'est vrai qu'il y a eu un coup de foudre entre ces femmes et moi. Je les trouve absolument extraordinaires, ces Antigones. Elles ont toujours une bonne idée. Par exemple, le 14 novembre au matin, l'une d'elles me téléphone en me disant « Madame Merian, il faut qu'on remercie la France ». Ah, je lui dis « quelle excellente idée, je vais faire une lettre au président de la République que vous allez toutes signer », où elle disait « nous, étrangères, africaines, musulmanes, qui avons trouvé la liberté ici à Paris, nous remercions la France et nous sommes atterrés du deuil que vous êtes obligés de vivre ».
Daniel Merian, il y a une chose qui paraît très importante dans tout votre parcours, c'est votre foi. Vous êtes catholique, pratiquante. Alors j'ai une petite question d'actualité, parce que cette semaine, il y a eu un appel dans Témoignages Chrétiens.
Absolument,
par rapport à la
ma lecture favorite.
Par rapport à la pédophilie dans l'Église, les signataires demandent une commission d'enquête parlementaire
tout
pour
à fait
là-dessus. Vous pensez que c'est une bonne idée, vous aussi?
Ah ben, c'est une excellente idée, parce que je ne vois pas comment et pourquoi les évêques ne seraient pas soumis à des enquêtes parlementaires comme le commun des mortels. Le problème serait que nos évêques veuillent bien penser qu'ils sont le commun des mortels, hein, que le code pénal français est fait pour eux, comme pour vous et moi, et que quand on a connaissance d'un crime, on le dénonce au procureur.
Voilà, ça,
ce qu'ils n'ont pas fait.
C'est l'avocate qui parle là.
Oui, c'est l'avocate qui parle, parce que je crains qu'il y ait eu beaucoup de curés à donner beaucoup d'absolutions à beaucoup d'autres curés pédophiles, alors que leur devoir de prêtre était de refuser l'absolution en disant « quand tu auras été te dénoncer après, je te donnerai l'absolution ». Donc, il y a un retard à l'application de la loi dans l'Église qui fait qu'elle se déshonore. Et comme vous l'avez dit, j'ai la foi, comme pour moi, Jésus-Christ est mon maître, je ne tiens pas à ce que l'Église de France continue de se ridiculiser et de nous déshonorer par son attitude de silence à peu près total sur ce problème.
Daniel Merian, vous êtes quelqu'un d'archi-positif, on l'a entendu depuis le début de cette émission. Alors, ce qui va suivre devrait vous plaire, c'est notre rubrique avec Sandrine Houdin, les bonnes ondes. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, on prend le bus, et pas n'importe lequel, l'Échappée Rose, le bus de l'association Tout le monde contre le cancer, un bus transformé en institut de beauté itinérant à destination des femmes atteintes de cancer et de leurs proches. Ce bus vient de repartir en tournée dans toute la France pour la troisième année consécutive.
Et ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas le rater. Avec ses 12 lettres échappées roses en rose pétant sur la carrosserie, c'était fait pour trancher avec le gris de l'hôpital. C'est réussi. Alors à l'intérieur, tous les produits de beauté d'un institut classique avec table de massage. Y viennent les femmes malades qui souffrent des effets secondaires des traitements sur la peau, sur les ongles, sur le cuir chevelu. Mais aussi, ce qui est plus rare et que je trouve très beau dans cette opération, y viennent les proches des malades. Ces mères, ces filles, ces grands-mères, ces sœurs à qui on ne pense pas forcément. Certes, elles n'ont pas le cancer, sauf qu'elles en sont malades. Et ça se voit aussi dans le miroir.
Alors on part à l'hôpital Trousseau de la PHP où justement le bus a été pris d'assaut par celles que les chaperons appellent les accompagnantes. À la veille de la journée des aidants, on va mieux comprendre leur souffrance.
Soins du visage, soins des ongles, massage ou maquillage. Maquillage pour ce petit bout de femme énergique qui vient de gravir le marchepied.
Bonjour. Bonjour et bienvenue.
Madame, merci beaucoup.
Je vous laisse vous asseoir sur le fauteuil.
C'est cool, hein?
Allez-y.
Bonjour madame, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites là?
Eh bien ce que je fais là, figurez-vous, c'est que j'accompagne ma petite fille qui a rechuté avec la leucémie, qui vient d'avoir ses 14 ans, voilà. Je viens me faire requinquer un petit peu si vous voulez, parce que vous savez les enfants, ils voient tout ça, hein, le physique. Il faut que je sois maquillée gentiment, hein, pas comme une star. Hein. Ouais. Quand il y a ce problème de maladie et tout, je crois que c'est encore plus important, la façon dont on se présente. Parce que si j'étais pas bien, elle le verrait. Elle est pas bien, ma petite fille, puisqu'avec tous les soins, la chimio et tout ça qu'on lui donne automatiquement. Donc moi, j'y suis fatiguée. Merci, d'autant plus que je suis pas présentable. Alors là, c'est le bouquet. Hein. Bon, ah ben voilà. Un petit coup de rouge à lèvres, un petit coup de brushing ou machin, hop, on se sent mieux.
Hop, je vais prendre votre manteau, vous inquiétez pas.
Sur la banquette, une jeune maman vient de s'installer. Elle tend ses doigts pour elle. Ce sera une manucure.
Vous voulez quelle forme? Plutôt arrondie, plutôt carrée?
Plutôt arrondie.
Et vous, madame, qu'est-ce que vous faites là?
Alors moi, j'ai ma petite puce de 2 ans et 2 mois qui a une leucémie.
Pourquoi venir vous faire un soin?
Parce qu'on me l'a proposé et je rejoins ce que disait Gisèle. Il faut vraiment prendre soin de soi. Nos enfants n'ont pas à gérer notre mal-être et nos angoisses.
Bon, qu'est-ce que vous allez me faire de beau, là?
Quelque chose de léger, vous inquiétez
pas. Ah oui,
pas.
Voilà, hein, je fais soft. Hein,
Je m'occupe de vous.
Se faire chouchouter, c'est pas désagréable.
Ah bah non, on est là pour ça.
Nous y voilà.
Il est vrai que l'accompagnant, bon bah oui, il souffre d'une autre manière, mais il souffre. Il n'a pas la maladie. Il accompagne. Mais là... Ah, ça me prend comme ça d'un seul coup, ça va passer, hein. Ça va passer, voilà.
On est là aussi pour ça, hein. On est aussi là pour ça, et c'est pour ça que...
Bah oui, parce qu'on se sent un petit peu honteuse de se dire, bah oui, nous, on n'est pas bien non plus. Alors, on a un peu de honte, parce qu'on se dit, en fin de compte, la maladie, on ne l'a pas. Mais voilà, il y a quand même...
Justement ici, vous pouvez pleurer.
Oui, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas encore sortis.
Il faut bien que ça sorte à un moment donné. Hein.
Voilà, bah, ça sort. Sans phare.
C'est bien comme ça, au moins le maquillage voilà, tiendra après.
Il tiendra mieux. Hein. Voilà.
Je vous laisse prendre soin de vous, madame.
Merci beaucoup. Là, je suis très fatiguée.
Mélanie Hamon est la chef de projet de l'Échappée Rose. Échappée, le mot évidemment, n'a pas été choisi par hasard.
J'ai des mamans ici à l'hôpital qui passent des journées entières auprès de leurs enfants, qui s'oublient totalement. Jamais elles iront prendre un rendez-vous dans un institut, jamais elles iront chez le coiffeur. En revanche, leur dire, plutôt qu'aller prendre un petit café avec une cigarette en bas sur le parking, vous allez prendre 30 minutes pour vous. Elles pensent que c'est futile. Ça paraît futile, mais finalement, ça l'est pas. On a des mamans qui prennent rendez-vous avec leurs enfants. Maman, fille, extraordinaire. Elles rentrent dans la caravane toutes les deux. Et c'est comme si elles avaient été se faire une après-midi entre, bah, comme une maman et une fille qui n'est pas malade. Voilà. Elles comparent leur maquillage, elles comparent leur manucure, elles sortent, elles sont toutes jolies toutes les deux. Et ça, pour nous, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est prendre soin de soi, mais prendre soin aussi du binôme. Puis, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de bip, il n'y a pas d'odeur d'alcool, de désinfectant. Voilà. Nous, les odeurs, c'est quoi? Bah, c'est l'encens, c'est les bougies, c'est pas froid, c'est chaud, comme sous une petite couette où on prend soin d'eux.
Voilà, on est là, on s'occupe de nous et on est dans un cocon.
Dans un cocon.
Ah oui, cocon, voilà, on est dans un cocon.
On se doute pas qu'à l'extérieur, c'est l'hôpital quand on est là.
Non, c'est ça, c'est agréable.
Vous avez besoin aussi, vous, de pause.
Oui.
Vous partagez ça aussi, c'est une espèce de bulle?
Oui, complètement.
Sinon, on est quasi obsessionnel sur la maladie de son gamin?
C'est ça, on est un peu obsessionnel, surtout au début. À l'annonce du diagnostic, c'est un peu comme si la vie s'arrêtait. On ne peut même pas imaginer pouvoir s'asseoir chez le coiffeur, parce que c'est des maladies qui font peur.
La vie bascule en quelques minutes, voilà. Quand on vous annonce leucémie, boum.
Quelque part, la maladie est à l'extérieur du camion, là.
Là, elle est à l'extérieur du camion, ouais.
Un grand merci pour ce reportage, Sandrine. Toutes les infos sur l'Échappée Rose, sur la page de l'émission, Daniel Merian. Yami, il est une façon d'aider les autres.
Ah ben, ça me fait énormément plaisir, les bus. Les bus de la santé, les bus du droit. Et vous savez que moi, je cherche des fonds pour faire circuler 10 school bus américains transformés moitié en dispensaire, moitié en cybercentre, pendant 5 ans dans les 10 pays d'Afrique de l'Ouest dont sont originaires les jeunes femmes dont je m'occupe. Parce que si elles ont appelé leur association SOS Africaine en danger, c'est parce que les Africaines en danger, ce sont leurs petites filles restées au village. Alors vous imaginez leur cauchemar. Il faut avoir le statut de réfugié. Après, il faut faire la procédure de reconstitution familiale. Et c'est une nouvelle galère. Donc les bus, ça me fait plaisir. Parce que partout, les bus font énormément de bien.
Voilà, l'appel est lancé. En tout cas, Daniel Merian, il y avait encore plein de choses à voir avec vous. J'aurais voulu qu'on parle aussi de votre famille, de vos enfants, petits-enfants. Vous avez eu deux enfants, je dirais même trois, puisque vous avez adopté un jeune Africain. Mais enfin bon, on n'a plus le temps de parler de tout ça. Je renvoie en tout cas, pour ceux qui s'intéressent à votre histoire, je conseille à tout le monde votre livre « Nous n'avons pas fini de nous aimer ». C'est chez Grasset et c'est écrit avec Tania de Montaigne. Voilà. Grand merci Daniel Merian. De toute façon, ne partez pas, puisque après le journal de 19h, le téléphone sonne sera consacré au mouvement MeToo un an après. On se demandera si la libération de la parole des femmes a vraiment changé les choses ici en France. Et vous resterez avec nous pour en parler. Surtout, appelez-nous en tout cas au 01 45 24 7000.